Au sommaire de ce journal, libération des avoirs bloqués de l'Iran par les États-Unis et l'échange des prisonniers entre les deux parties, déclaration du ministère iranien des Affaires étrangères. Visite du ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian en Afrique du Sud, Téhéran et Pretoria signent un document de coopération. Et puis Téhéran ne soutient aucune partie dans la guerre contre l'Ukraine, a réitéré le chef de la diplomatie de la République islamique d'Iran. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Libération des avoirs bloqués de l'Iran par les États-Unis. Déclaration du ministère iranien des Affaires étrangères. Le ministère des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran a publié une déclaration jeudi concernant la libération des avoirs iraniens et la libération d'un certain nombre de prisonniers détenus illégalement par les États-Unis. Le processus de libération de milliards de dollars des avoirs de la République islamique d'Iran, saisis illégalement en Corée du Sud par les États-Unis pendant plusieurs années, a commencé. L'Iran a reçu la garantie nécessaire au respect par les États-Unis de ses obligations à cet égard. Les efforts pour la libération et la levée des restrictions sur les ressources financières de la République islamique d'Iran, qui ont été illégalement bloquées ou heurtées à des obstacles pour être utilisées en raison de l'inquiétude des banques étrangères face aux sanctions extraterritoriales cruelles des États-Unis, étaient toujours à l'ordre du jour du ministère des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran. La méthode et les modalités d'exploitation des ressources et des actifs financiers débloqués sont à la disposition de la République islamique d'Iran et ces ressources seront dépensées pour divers besoins du pays tels que déterminés par les autorités compétentes. Outre la libération des ressources financières saisies illégalement, le ministère iranien des Affaires étrangères considère la protection des droits des Iraniens dans le monde comme l'un de ses devoirs inhérents. Dans ce contexte, la libération d'un certain nombre de prisonniers iraniens innocents qui ont été illégalement arrêtés et emprisonnés dans ce pays au cours des dernières années sous de fausses accusations de contournement des cruelles sanctions américaines a été sérieusement poursuivie par l'appareil diplomatique. À cet égard, la libération d'un certain nombre de prisonniers illégalement détenus par les États-Unis sera réalisée prochainement. On rappelle que les prisonniers de la partie américaine et considérés par Washington en échange se trouvent toujours en Iran. Téhéran et Pretoria signent un document de coopération lors de sa visite du ministre iranien des Affaires étrangères en Afrique du Sud. Hossein Amir Abdollahian et son homologue sud-africain Naledi Pandor ont signé le document à l'issue de la 15e session de la commission mixte sur la coopération. Auparavant, les deux ministres avaient tenu une conférence de presse au cours de laquelle Amir Abdollahian avait déclaré que l'Iran considérait les BRICS comme une plateforme pour renforcer le multilatéralisme. Il a également déclaré que Téhéran se réjouissait d'élargir ses liens dans tous les domaines, y compris la science, la technologie et l'énergie. À son tour, Pandor a déclaré que l'Afrique du Sud soutenait la candidature de l'Iran à rejoindre le groupe de pays BRICS. Téhéran ne soutient aucune partie dans la guerre contre l'Ukraine. Le ministre iranien des Affaires étrangères a réaffirmé que Téhéran ne soutenait aucune partie belligérante dans la poursuite de la guerre contre l'Ukraine. S'exprimant lors d'une conférence de presse conjointe avec la ministre sud-africaine des Relations internationales et de la coopération, Naledi Pandor, jeudi, à Pretoria, Amir Abdollahian a déclaré « L'Iran est prêt à coopérer pleinement avec l'Afrique du Sud dans divers domaines, y compris le secteur scientifique et technologique, ainsi que la coopération mutuelle dans le domaine de l'énergie. » Saluant les négociations importantes et fructueuses que les délégations des organisations étatiques et des secteurs privés des deux pays ont menées lors de la réunion de la commission mixte de coopération pendant deux jours, Amir Abdollahian a déclaré que les pourparlers ont jeté les bases de nouveaux accords et d'une feuille de route pour une coopération continue mutuelle. rejetant les allégations selon lesquelles des drones iraniens auraient été utilisés dans la guerre en Ukraine. Le ministre des Affaires étrangères a déclaré que l'Ukraine n'avait avancé aucune preuve à l'appui de ces allégations. Ni l'Afrique du Sud, ni Téhéran ne sont pas pour la guerre en Ukraine, a pour sa part souligné Naledi Pandor, exprimant le soutien de son pays aux efforts de paix. Enfin, les forces de police iraniennes ont arrêté un membre du groupe terroriste Daesh opérant dans la province du Sistan et Baloutchistan, dans le sud-est du pays. Un commandant de police a déclaré que l'individu avait la nationalité iranienne et faisait la promotion de Daesh dans la région. Le groupe terroriste a également été impliqué dans l'attaque meurtrière de l'année dernière contre un sanctuaire sacré dans la ville de Shiraz, au sud. L'acte de terreur du 26 octobre a fait 13 morts. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique reste avec nous. Merci. En mémoire du lion de la pelouse, Ibrahim al-Nablousi, un an après sa mort en martyr. Le 9 août a marqué le premier anniversaire du martyr d'Ibrahim al-Nablousi, le combattant de la résistance palestinienne qui a inspiré une nouvelle génération de combattants antisionistes en Cisjordanie occupée, gagnant le surnom de lion de la pelouse. Nablousi est né en 2003 à Naplouse, une petite ville de Cisjordanie occupée, entourée de colonies israéliennes illégales, qui est devenue, ces dernières années, un bastion important de la résistance palestinienne contre l'apartheid israélien. Son adolescence a été marquée par la deuxième intifada, un soulèvement palestinien de masse contre le régime d'occupation lorsque sa ville a été ébranlée par un siège et des attaques prolongées. Ayant grandi dans une maison familiale, centenaire sur la colline de la ville, il a observé pendant des années comment sa maison natale était fréquemment bombardée et rasée par les avions de chasse du régime israélien. Le développement de la vision du monde de Nablousi a également été influencé par l'expérience déchirante de son père, un ancien prisonnier dans les prisons israéliennes, ainsi que de ses camarades de classe, voisins et autres qui ont souffert sous l'occupation israélienne illégale de différentes manières. Chaque fois que les forces d'occupation entraient dans Naplouse, en tant qu'écolier, Nablousi participait aux exercices de résistance avec son frère aîné, jetant des pierres sur des véhicules et des chars militaires israéliens. Après avoir été témoin toute sa vie de l'impact de l'occupation sur sa ville, ses habitants et sa famille, il a lui-même été victime de harcèlement israélien, ce qui l'a incité à rejoindre le front de la résistance en 2019, à l'âge de 15 ans. Déjà connu de ses connaissances sous le nom de Nimrod en raison de sa nature rebelle, après son arrestation, il est devenu encore plus provocant et farouchement engagé dans le mouvement de résistance contre l'apartheid israélien. Nablousi a décidé qu'il ne serait plus jamais un piège pour l'occupant, mais qu'il deviendrait le chasseur chaque fois qu'il entendait qu'une attaque ennemie était sur le point d'être lancée en Cisjordanie. Il n'était plus temps de se cacher, mais de riposter avec vengeance. Il prenait son arme et se précipitait immédiatement sur les lieux pour affronter l'agresseur. C'est ainsi que le jeune Palestinien est devenu chasseur. Selon les mots de son père, ils ne l'ont pas chassé, il les a chassés. Sa détermination inébranlable et son esprit de ne jamais dire mourir se sont rapidement fait connaître dans les territoires palestiniens occupés. Il est devenu un modèle pour la jeunesse, ce qui lui a valu le surnom de Lion de Naplouse. Sa réputation a également atteint le camp ennemi, qui s'est inquiété de sa popularité parmi les jeunes Palestiniens et de la nouvelle tendance à la résistance croissante en Cisjordanie occupée, ainsi qu'à Gaza. Pendant des années, le régime israélien a mené des tactiques d'intimidation contre les jeunes Palestiniens, espérant les rendre craintifs, passifs et désintéressés envers la résistance. Les opérations de Nablusi ont blessé un soldat sioniste et de nombreux colons dont les activités en Cisjordanie occupée sont illégales au regard du droit international. Et c'est ainsi qu'il est devenu recherché par le régime israélien. Pour eux, tuer Nablusi n'était pas tuer un individu, mais tuer l'esprit de résistance intrépide. Sa famille et ses connaissances témoignent qu'il a survécu à plusieurs lâches tentatives d'assassinat au cours desquelles ses camarades ont été tués. Des rumeurs se sont répandues, selon lesquelles il aurait été assassiné à deux reprises, la première fois en février 2022, lors d'une embuscade meurtrière dans le quartier de Marfia, et la deuxième fois en juillet de la même année, lors du raid d'Al-Yasmina. Les deux fois, il est apparu aux funérailles de ses camarades, marchant avec des filles les armes à la main et faisant savoir à l'ennemi où il se trouvait et comment il allait. Le 9 août, les services d'espionnage israéliens ont localisé Nablusi et un groupe de combattants dans une maison de la vieille ville de Naplouse et ont lancé une attaque impliquant des dizaines de soldats. Les troupes israéliennes et les forces spéciales ont infiltré l'endroit caché dans des camions de marchandises civiles, tandis qu'un grand nombre de renforts ont pris d'assaut la ville à partir de plusieurs points d'entrée. Un combat de rue a rapidement suivi, au cours duquel 60 Palestiniens ont été blessés et après avoir soudainement encerclé la maison ciblée, ils ont proposé à Nablusi de se rendre. Le jeune combattant savait ce qui s'ensuivrait dans cette affaire. Une longue peine d'emprisonnement pour de fausses accusations, une répétition de la torture brutale qu'il a subie en tant que jeune garçon, une fausse représentation en tant que lâche pour la propagande israélienne, l'incitant à trahir ses camarades en échange de la liberté, ainsi de suite. La reddition n'était donc pas une option et il ne voulait pas non plus battre en retraite comme un lâche. Avec son groupe, il a défié de manière décisive l'ennemi militairement supérieur, envoyant un message enregistré à d'autres camarades. « Ô camarade, quand je deviendrai martyr, dites à ma mère que je l'aime, prenez soin de la patrie après moi. Je demande pour notre honneur que personne n'abandonne l'arme. Je suis ici assiégé, je vais être tué en martyr, priez pour moi. » Son message et son action étaient clairs. Pas de négociation avec des criminels, pas de désarmement face à des menaces agressives, pas de peur dans des situations apparemment sans espoir et pas de compromis sur l'honneur, la famille, la patrie et la foi. Nablusi et deux autres ont finalement été tués en martyrs après que les agresseurs ont lancé des grenades propulsées par fusée sur la maison. Cependant, le résultat a été complètement différent de ce que le régime avait imaginé. L'esprit de résistance n'a pas été tué, au contraire, ses dernières paroles ont résonné fortement et largement en Palestine et dans le monde, révélant ce qu'il y avait dans l'esprit des milliers d'autres martyrs dont ils n'ont pas entendu les derniers messages. Nablusi a été déclaré mort à l'hôpital où sa mère s'est adressée à la foule de partisans en brandissant le signe de la victoire et en disant « Ibrahim a triomphé, je ne veux même pas leur verser mes larmes. » Ibrahim est un martyr. Il se trompe s'il pense avoir tué Ibrahim. Tout le monde est Ibrahim, a-t-elle affirmé.